Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilization.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Ça s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Exterminate! Exterminate! Exterminate!
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Bienvenue dans cette nouvelle émission des Voix du Scénarium. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Ce soir, nous allons continuer la partie de Chronique oubliée Cthulhu, où on utilise vraiment très peu les règles et quasiment pas de jet dé. Cette troisième partie qui interviendra en deuxième partie d'émission. Et juste avant, j'aimerais bien vous parler d'un jeu que je viens de lire, qui est plutôt intéressant. Il s'agit de Cult, qui vient de sortir, dont la nouvelle édition vient de sortir aux éditions Arcane Asylum. Alors, recontextualisons un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est que Cult? Cult, c'est un jeu d'horreur contemporain, d'horreur fantastique, dans lequel les joueurs vont incarner des personnages en proie à des tourments, en proie à des démons personnels. Ces personnages ne sont pas seulement des humains, ce sont des divinités qui ont été emprisonnés, mais ça, ils vont avoir besoin de le découvrir, et pour ça il faut qu'ils se confrontent à leur terreur et à leurs angoisses. Alors pourquoi Cult, c'est intéressant? Parce que déjà ça permet de jouer de l'horreur, mais dans autre chose que du Cthulhu, dans autre chose que du fantastique cosmique, comme on peut en avoir beaucoup, et que des jeux d'horreur brutes, d'horreur angoissante et d'horreur psychologique, on n'en a pas tant que ça. Donc c'est pour ça que Cult, c'est vraiment pas un ovni, mais c'est un objet à part. Ce jeu, donc cette version est la quatrième édition, elle a été financée sur Game on Tabletop par Arcane Asylum. L'édition a plutôt bien fonctionné et les ouvrages ont été livrés chez les participants. Et du coup, c'est un ouvrage qui est vraiment très joli. Alors moi, j'ai que la version de base, donc je vais pas vous parler de tout le reste, mais Enfin, on va broder un petit peu, mais le livre de base, déjà, on est sur un gros livre qui est vraiment assez massif, puisqu'on a quand même beaucoup de pages. On a de 376 pages en couleur. C'est un jeu qui est beaucoup illustré. Il y a quand même beaucoup, une densité de texte qui est quand même assez importante. Mais c'est un ouvrage sur lequel il y a un soin qui a été apporté pour avoir un objet qui soit vraiment, vraiment classe. Bon, déjà sur la couve, on a une grande illustration avec très peu de texte. On n'a pas du vernis sélectif dans tous les sens comme on peut en avoir. Et puis, petit truc intéressant, on est sur une couverture où il n'y a pas de pelliculage, donc il y a un aspect très doux sur l'ouvrage qui le rend hyper agréable à prendre. Donc à l'intérieur, on va vous expliquer les règles du jeu, comment ça fonctionne. Donc c'est un jeu qui devrait faire appel très peu aux dés, puisqu'ils ont abandonné le système de jeu d'origine pour passer sur un PBTA, donc Powered by the Apocalypse, qui est un jeu qui est très très narratif, où en fonction des demandes des joueurs, de certains mots-clés, certaines actions se déroulent et les résultats des joueurs, donc il y a quand même un jet de dés à faire, mais le résultat du jet va entraîner soit un échec avec des complications, soit une réussite avec un avantage pour les joueurs, soit une réussite avec un désavantage. Donc c'est un jeu de rôle qui va vraiment pouvoir donner la part belle à beaucoup de discussions et à beaucoup de fluidité pour l'écriture, pour le jouer. Concrètement, comment ça se déroule dans l'ouvrage? Eh ben, c'est un petit peu déroutant puisque l'ouvrage est très bien écrit. Il y a beaucoup de texte et tout le texte fait vraiment tout ce qu'il faut pour essayer de te mettre au maximum dans une ambiance qui soit une ambiance angoissante, qui soit une ambiance d'horreur. Donc, c'est très bien écrit. C'est vraiment super agréable à lire. Les textes sont bien ciselés et par moments on se demande en fait s'il y a un système de règles puisque c'est vraiment mis dans la fluidité, dans la continuité. Donc moi c'est un petit bémol que je mettrais puisque je suis un joueur depuis de nombreuses années, c'est qu'en fait le PBTA va, le Power Advisory Apocalypse, le système Apocalypse va inciter les joueurs et le maître de jeu à avoir certains comportements pour pouvoir pouvoir interagir et puis faire évoluer la situation. Pourquoi ça me gêne un petit peu? C'est pas que ça me gêne, c'est que j'ai l'impression de lire quelque chose que je connais déjà, donc je parle encore en tant que maître de jeu et puis joueur. C'est qu'en fait tous ces conseils là sont des conseils de jeu qu'un maître de jeu avec une certaine expérience va déjà appliquer de base pour permettre à l'action de se dérouler. Donc quelqu'un qui n'a jamais joué de jeu de rôle va y trouver son compte sans vraiment se poser de questions, et puis il va pouvoir être mené par la main. Donc ça peut être un bon livre pour faire de l'initiation grâce à ce système qui est vraiment bien retravaillé et bien fluidifié par rapport à d'autres jeux que j'ai pu lire en PBTA où c'était un petit peu lourd et un peu complexe à gérer. Là on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment assez fluide et qui fonctionne ma foi très très bien. L'univers, je vais pas vous le dévoiler, hein. C'est un univers contemporain fantastique avec de l'horreur psychologique comme je le disais tout à l'heure. Cet ouvrage là c'est sur cette quatrième édition, c'est l'occasion aussi de montrer un petit peu ce que de donner des explications et beaucoup plus de contexte à des choses qui étaient floues et non dites dans les éditions précédentes. C'est pas un mal, c'est pas très très grave, c'est au contraire, ça permet de renforcer un petit peu l'imprégnation du joueur et de compléter un petit peu l'expérience des joueurs qui auraient commencé avant cette quatrième édition, mais ça gâche un petit peu aussi le fait de pas savoir et que certaines horreurs sont complètement abscons et tapis dans l'ombre et on sait absolument pas ce qu'elles nous veulent et pourquoi elles sont là. Donc voilà, c'est à la fois bien et pas bien. Après, les joueurs ne sauront pas tout, ou alors c'est que le maître de jeu n'a pas compris ce qu'il faut faire. Il faut vraiment distiller les informations petit à petit et leur laisser à peine entrevoir l'intégralité de l'horreur externe, puisque chaque évolution, chaque confrontation du joueur avec ses douleurs internes, ses douleurs psychologiques, va lui permettre de découvrir un petit peu plus de ce qui se passe derrière le voile. Donc vous l'aurez compris, un culte, c'est un jeu qui est très violent, qui n'est pas destiné à toutes les personnes. Il y a pas mal de passages où justement on va expliquer aux joueurs le contrat qui doit s'établir entre le maître de jeu et les joueurs, puisqu'effectivement le but c'est de créer de l'horreur, créer du malaise, mais pas non plus de choquer les joueurs. Alors, on peut les choquer dans la mesure où ils vont accepter certaines choses. Vous voyez, par exemple, si vous avez un joueur qui est complètement arachnophobe et qui n'en dort pas de la nuit si on lui met une araignée, il sera peut-être pas jouasse si vous abordez la thématique de l'arachnophobie dans Cult. Donc ça fait partie des choses qu'il faut vraiment discuter avec ces joueurs, parce que les thématiques sont quand même assez perturbantes. Et ça nécessite de prendre pas mal de recul. Donc c'est vraiment un jeu qui est très intéressant, qu'il faut essayer de lire si vous avez envie de vous confronter à de l'horreur psychologique et physique, hein, pas que psychologique. Mais c'est un jeu qui avait eu sa petite réputation sulfureuse. Alors, de mémoire, il est sorti un ou deux ans après le fameux Bel et Masque de Mireille Dumas, qui a plongé le jeu de rôle dans une période un petit peu noire. Et il est arrivé avec cette aura un peu sulfureuse et qui a pu diminuer un peu ses ventes. Quoique je ne saurais même pas dire si c'est un jeu qui a été bien vendu ou pas, mais en tout cas, il avait une réputation plutôt particulière. Ça c'était Cult, K-U-L-T, et c'est publié aux éditions Arcane Asylum. Si vous voulez compléter un petit peu l'expérience, il y a donc un livre de base avec un écran, vous avez un set de dés, ce qui est plutôt pas mal, un set d'archétypes qui peut accompagner l'écran. Il y a une version luxe qui existe, qui a l'air très jolie en blanc, et puis j'ai l'impression que c'est un... Comment dire, c'est un relief à chaud qui a été mis sur un cuir, mais je trouve quand même que la version classique est vraiment très jolie. Donc bon, vous ferez votre choix. Il y en a une qui est plus chère que l'autre, bien entendu. Et puis vous avez un jeu de cartes, donc un deck de référence sur certaines règles, et puis un tarot. Donc un tarot sans doute pour faire de la divination, mais j'ai pas vraiment compris l'intérêt pour l'instant, que ça pourra peut-être faire partie d'un supplément à l'avenir. Voilà, donc Culte, tout ça c'est disponible aux éditions Arcane Asylum Publishing. Je vous laisse faire une petite pause musicale. Vous allez écouter Freak on a Leash de Korn, qui est chanté par une petite fille de 8 ans. C'est produit par Okiffé Music Foundation. Donc je me suis pas vraiment renseigné, c'est juste que je trouvais ça très rigolo de voir cette petite fille chanter du Korn. Quand vous connaissez la chanson, il y a une espèce de mise en abîme qui est plutôt rigolote. Donc je vous laisse avec Freak on a Leash by Korn, chanté par une petite fille de 8.
Radio G 101.5 FM.
www.radio-g.fr.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours les voix du scénarium. Je vous propose de retrouver les voix de ce soir, à savoir Thierry, Cyril et Juliette, qui s'apprêtaient à aller assister à la veillée funèbre d'un chanteur de métal décédé dans des circonstances plutôt étranges. On reprend juste après la découverte d'un étrange ouvrage dans le bureau de la famille Dufrance, famille du chanteur de groupe qui est décédé. Un livre qui était teinté d'une légère lumière verte. Qu'est-ce que vous faites ?
Donc je l'attrape. Je le sors et s'il se passe rien, si je vois pas de titre particulier, je l'ouvre.
C'est un ouvrage assez épais. Il n'y a pas de titre, mais il y a un truc qui te perturbe, c'est que le cuir, tu sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il y a comme une espèce de léger agencement qui pourrait laisser deviner un visage. Je ne sais pas si c'est la teinte du cuir, si c'est le cuir qui a été façonné de façon à faire cet effet-là. Tu ne sais pas. Un visage aux traits déformés. Un visage qui pourrait éventuellement ressembler à un démon.
Alors je pose le livre sur le bureau. Et pour pouvoir l'étudier à trois autour.
Plus facilement.
Ok.
Vous avez vu ce visage ?
Effectivement, quand il vous mentionne le visage, selon un certain angle, vous distinguez effectivement une forme qui rappelle un visage déformé sur la couverture.
Est-ce que c'est pareidoli ou est-ce que c'est normal de voir un visage ?
Je ne pense pas que ce soit normal de voir un visage comme ça. Je pense que c'est volontaire. Il a été conçu pour qu'on le voit. Vous connaissez la mémoire du cuir ?
Non.
Le cuir peut avoir la mémoire de la bête qui a été. Voilà, si vous avez du cuir et que vous ressentez des émotions étranges, c'est que peut-être que la vache qui a créé ce cuir, qui a donné ce cuir, a vécu des émotions étranges. C'est mon livre de 2014. Je vous l'enverrai si vous voulez.
La mémoire du cuir. Visiblement, la vache était verte.
et elle avait un visage humain.
Et le visage humain.
Vous pourriez le retourner de l'autre côté ?
Oui, le quatrième de couverture.
Voilà. Je regarde. Est-ce que ça forme aussi une forme bizarre
Non, il n'y a pas de forme derrière. Non, si s'il y avait la face, il y aurait eu peut-être la face. Mais je ne vais pas la faire.
Mais
D'accord, donc là, le cuir est lisse, normal.
Non, il n'est jamais lisse. Il est plus lisse. Il a pas... Mais tu n'as pas cette impression de visage.
D'accord.
Moi, je voulais voir si le visage me rappelle le tatouage de Valère. Si ça ressemble au tatouage.
Très peu.
Ok.
Bon, très peu. Ça peut, sous certains angles, ça peut vaguement rappeler, mais pas.
Ouvrez donc. J'ouvre. Qu'on voit de quoi ça parle.
J'ouvre. Pardon, j'ouvre.
Ok, tu ouvres l'ouvrage et à l'intérieur, tu as plusieurs types de textes. Plusieurs types de contenus. Tu as des contenus qui semblent avoir été tracés à la plume. Tu as des pages qui sont sur plusieurs colonnes avec de belles enluminures et un gros cadrage tout autour. Et tu as des pages avec des illustrations. Les illustrations vont être de l'ordre de choses que tu n'as pas l'air de vraiment connaître. Après, tu as des. Donc ça peut être des. Ça a l'air de ressembler à des plantes ou des schémas, mais tu n'es pas vraiment sûr. Et puis tu as des illustrations qui représentent des scènes, qui représentent des offrandes, qui représentent des objets, qui représentent des créatures. Et tu as effectivement une pleine page avec quasiment le tatouage de Valère sur la page.
Il est là.
Il a l'air plus ancien, moins travaillé que le tatouage de Valère. Mais vous êtes quasiment sûr que c'est le tatouage.
Ça paraît évident.
C'est bien ésotérique, j'ai l'impression. Hein.
Et c'est la seule chose qu'on voit sur cette page, où il y a plusieurs tatouages sur la même page, est-ce qu'il y a des textes?
Alors, il n'y a pas de tatouages, il y a des illustrations.
Pardon, des illustrations, excuse-moi, oui.
En fait, quasiment à chaque fois qu'il y a une illustration, il y a un texte en vis-à-vis. Des fois, ce sont des paragraphes, des fois, les textes sont effectivement séparés par des colonnes d'enluminure, comme s'il y avait des sections, comme s'il y avait différentes choses en fait, qui étaient dites. Mmh.
Vous, Monsieur Roche, vous avez enregistré le concert?
Oui.
Est-ce que vous avez l'enregistrement de la dernière chanson? J'aimerais voir si ça correspond à ce qui ressemble comme lettre ici.
Oui, je l'ai dans mon téléphone. En fait... ce que je fais juste avant qu'il me pose la question, c'est il y a des textes. Donc oui. J'essaye de voir de quoi ça traite, parce que ces plantes, j'y connais rien en botanique, en archéologie non plus, donc les objets anciens, j'y connais rien. Les créatures, bon, j'ai dû voir quelques films, mais enfin ça a pas l'air. Ça ressemble un peu à du Jiger, mais voilà, hein, bon. Je suis pas trop fixé. Du coup, je me dis que le texte va pouvoir m'aider à comprendre de quoi ça parle, parce que jusqu'ici, j'ai un bouquin, je sais pas trop ce que ça raconte, quoi.
Alors, tu essayes de le lire, de décrypter le texte qu'il y ait. Alors, au début, tu as l'impression que c'est juste parce que c'est écrit de manière tellement particulière. Quand c'est des enluminures, c'est des enluminures qui sont très hautes, donc le texte est condensé avec des lettres qui peuvent se chevaucher. Donc au départ, tu avais l'impression de ne pas arriver à les lire, donc tu t'es plutôt orienté vers les parties qui semblaient manuscrites. Et en fait, tu te rends compte juste que c'est une langue que tu ne connais pas.
D'accord. Et une écriture que je ne connais pas ?
Une écriture que tu ne connais pas.
C'est pas l'alphabet qu'on connaît, par exemple.
Si, les lettres de l'alphabet, okay. c'est l'alphabet romain qui est utilisé.
D'accord. Donc c'est pas des symboles.
Il y en a. Des fois, t'as des intermèdes avec des symboles différents, comme si c'était la retranscription de phrases dans une autre langue, mais tu n'en es pas certain.
D'accord.
Un peu en mode Pierre de Rosette, si tu veux.
Par rapport à la question de Yuri, est-ce qu'il y a des passages? J'imagine que le texte de la chanson, j'ai dû le lire beaucoup, donc l'avoir à peu près en tête, bon, en phonétique, hein, parce que bon. Et du coup, je jette un œil au livre.
Ça a l'air ressemblant sur les paragraphes qui sont juste à gauche de l'illustration, en fait.
Donc j'indique cet endroit-là et je pense que c'est là qu'il a trouvé le texte de sa chanson. Il y a quoi autour du texte comme image?
Ah bah en fait, t'as vraiment la page de texte à gauche et l'image à droite.
Et c'est quoi? Ah, l'image, c'est son tatouage.
C'est son tatouage.
D'accord. J'ai une idée globalement de quoi traite ce chapitre. Ou enfin, tu dis que c'est une langue que je comprends pas, mais est-ce qu'il y a beaucoup de plantes illustrées autour? Est-ce qu'il y a beaucoup d'objets? Est-ce qu'il y a...
Sur les pages d'avant, tu as quelques objets. Tu as une sorte de calice qui est travaillé assez finement avec des motifs géométriques. Tu as quelques plantes que tu ne parviens pas à identifier, mais ça, c'est sur les pages précédentes. Alors, tu ne sais pas si ça fait partie de la même structure,
du même chapitre.
Il n'y a pas
d'indication de chapitre, de... J'arrive pas à comprendre la construction du livre.
La construction du livre est assez particulière, parce que vraiment, d'une page à l'autre, tu peux passer d'une page manuscrite avec une illustration à la page suivante avec en texte en enluminure, avec peut-être d'autres illustrations qui ont été mises. Mais c'est plutôt chaotique dans sa structure, en fait. Comme si ça avait été écrit par plusieurs personnes et peut-être sur plusieurs époques.
Ok. Donc, je remets la page où il y a le texte de la chanson. Et donc on est d'accord, c'est pas quelque chose qui a été imprimé. Les pages manuscrites, c'est vraiment écrit, ça fait un carnet, quoi.
C'est ça.
C'est bon, t'as la solution, réincarner.
Et les enluminures sont encore hyper belles. Vous n'arrivez pas à dater hein, l'ouvrage, mais il y a des dorures, il y a des rouges, il y a des bleus. Et les couleurs sont encore très vives et pas passées, en fait.
Mais du style, est-ce qu'on dirait que c'est plutôt quelque chose qui a 300, 400, 500 ans ou 50 ans ?
Ouais, tout à fait.
C'est-à-dire ?
Eh ben, y a un petit peu de tout.
Il y a un peu de tout, d'accord.
C'est ça.
On sent que c'est quelque chose qui a traversé les époques.
Qui a traversé les époques et qui est collectif. Il y a des choses qui ont l'air plus anciennes dans le texte et dans l'écriture, et il y a des choses qui ont l'air plus récentes. Il y a des choses que tu arriverais presque à resituer sur certaines époques médiévales ou des choses beaucoup plus anciennes. Mais c'est pas comme s'il y avait un cahier qui correspondait à une époque et un cahier qui correspondait à une autre époque. Ça s'alterne, comme si l'ouvrage avait pu traverser différentes époques.
D'accord, très bien.
Ok.
Je taise le livre. Non, je...
Et là, le visage hurle.
Ah, et c'est vrai que ben, moi, je pense directement à une invocation démoniaque et une sorte de corruption et tout. La question que je me pose, c'est vraiment l'intention que pouvait avoir Valers lorsqu'il a utilisé ça. Est-ce qu'il savait dans quoi il s'engageait, ou est-ce que, avec ce qu'on a pu entendre avec ses amis musiciens, il avait l'air de vouloir avoir l'air cool, et je suis pas sûre qu'il avait vraiment conscience de ce dans quoi il s'engageait, en fait.
Professeur,
c'est docteur.
Docteur, le livre n'a pas été retrouvé dans la chambre de Valère ou dans un bureau qui lui appartiendrait, mais dans le bureau de son père, et cela laisserait sous-entendre que c'est un héritage familial ou du moins une étude qui n'était pas forcément que du fait de Valère.
C'est une très bonne observation, Monsieur Roche. Néanmoins, ce livre ne semble pas coller avec le personnage que peut dégager Monsieur Dufrance. Vous savez, il semble très propre sur lui, très carré. Héritage militaire sans doute. Ce livre fait un peu tache avec cette image qu'il essaie de renvoyer. Penseriez-vous que ce serait une façade, Monsieur Kalipov ?
Je ne sais pas, mais je veux interroger Monsieur Dufrance. Je vais le chercher, je pense.
Alors, vous étiez en train de discuter et vous vous êtes pas forcément rendu compte que la luminosité était un petit peu plus importante, que vous aviez moins de difficultés à déchiffrer le livre depuis quelques instants.
C'est des appliques, la lumière des appliques a augmenté ?
Non. La porte derrière vous est grande ouverte. Mm-hmm. Et sur le mur qui vous fait face, une silhouette se dessine. La coupe au carré. Monsieur Dufrance semble être dans l'encadrement de la porte.
Ah. Je laisse parler, Yuri.
Monsieur Dufrance, vous tombez bien.
Vous pouvez m'expliquer ?
Je pense que vous pouvez nous expliquer aussi. Nous avons trouvé ce livre. Et c'est la chanson que Valère a fait. Et c'est la chanson qui l'a tué.
Pensez-vous que ce soit le moment ?
Vous préférez attendre demain ?
Vous êtes un homme de confiance, nous sommes à une sépulture.
Oui, vous pouvez laisser vous inviter un instant. Venez avec nous, enfin, nous discutons.
Yuri, je pense que M. Dufrance exprime plutôt le fait que le moment ne s'y prête pas et que nous pourrions avoir cette conversation à un autre moment.
C'est ce que je proposais. Nous pouvons attendre demain.
Et c'est ce que nous allons faire. Je vous prie de sortir de cette pièce.
Bien. D'accord. Cependant,
je prends le livre et je le remets à la place qui...
Prenez la page en photo d'abord.
Il l'a déjà fait, 3 fois.
Encore ?
Je ne devais pas permettre ça, Yuri.
J'y suis désolé, mais c'est peut-être important. La vérité doit être sue.
Est-ce que vous préférez que je vous escorte jusqu'à la sortie et que vous ne remettiez plus les pieds ici ?
C'est moi qui escorte d'habitude.
Vous escortiez Valère?
Oui.
Vous savez que j'ai aussi du personnel de maison?
Oui.
Bon.
Nous allons sortir d'ici, ne vous en faites pas. Nous n'étions pas là pour violer votre intimité, monsieur Dufrance. Nous étions curieux, inquiets, et nous cherchions des réponses. Nous aussi, nous essayons de gérer le drame que nous avons vécu, qui n'est rien face au vôtre. Je suis bien d'accord. Je vous présente mes excuses. Nous allons prendre du coup notre congé de cette pièce et nous en reparlerons un autre jour, si cela vous convient.
Si vous le souhaitez, nous pourrons en discuter demain.
Nous reviendrons demain.
À demain, alors.
Vous aussi sortez.
Ah mais j'étais le premier vers la sortie. Moi, hein.
Il est en mode discrétion aujourd'hui.
En mode, je veux pas perdre mon boulot.
Oui.
Vous êtes invité, moi je suis là en boulot.
Vous sortez de la pièce, chacun différemment, et puis vous. Au moment où vous passez devant Juliette, elle détourne le regard de Yuri. Genre, c'est pas moi qui ai cafeté.
J'y crois. Je lui fais une petite tape amicale.
La cérémonie semble se dérouler de manière normale, comme d'habitude. Et vous savez que l'inhumation en elle-même sera effectuée que le lendemain. Là, c'était la journée pour toutes les personnes en fait qui connaissaient Valère et qui pouvaient venir le voir. Et le lendemain, ce sera vraiment petit comité familial.
Pendant la cérémonie, vu qu'il y a d'autres journalistes, j'essaye d'en apprendre plus au sujet du père du France, de leurs affaires, de les relations qu'il peut avoir. Quel genre d'homme c'est ? Puisque moi, au final, c'était juste le père riche d'un wannabe star du métal. Mais là, je me dis que c'est peut-être un peu plus que ça.
Ok. Tu fouilles un petit peu sur le net, tu essaies de comprendre un petit peu. Tu es face à une vieille famille qui a acquis au fur et à mesure des terres, qui a... fait des bons placements, acheté des entreprises qui étaient déficitaires, les a redressées et a réussi à remettre ces choses d'aplomb pour que ce soit des choses rentables. Les seules choses que tu sembles qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est l'attachement à la maison dans laquelle vous êtes, qui elle est passée de génération en génération sans avoir été revendue, alors que le coût des terrains sur place aurait pu faire que c'était quelque chose de très rentable.
Et puis l'entretien d'une baraque aussi vieille, ça doit coûter une blinde en plus.
Ouais.
Ok. Oui.
Ah mais vas-y, si t'as...
Non, tu peux enchaîner.
Moi, ma priorité pendant la cérémonie, c'est d'observer très attentivement du coup le couple du France. Donc en particulier le père, afin d'essayer de voir s'il y a quelque chose dans leur émotion, leur façon de parler, de se comporter, de se tenir, qui pourrait trahir autre chose que juste du chagrin. Peut-être de la culpabilité, de l'inquiétude, ce genre de choses. Donc, vu que je suis quelqu'un d'observateur et très à l'écoute grâce à ma voix de la psychologie, j'y accorde une attention toute particulière pour voir si je vois des choses qui pourraient sortir de l'ordinaire et qui pourraient sortir de juste deux parents en deuil.
Alors, les deux choses que tu vois, c'est que effectivement, c'est un couple qui a l'air très uni. Le deuil n'est pas fin. Ils ont vraiment une profonde souffrance, une profonde tristesse. Et tu fais un travail de mémoire par rapport à ce que tu as pu voir tout à l'heure, comment ils étaient quand tu es arrivé et comment ils sont maintenant. Et tu trouves que M. Dufrance a l'air perturbé depuis quelques instants. Tu ne saurais pas dire par quoi.
Peut-être.
Il a l'air contrarié.
Ok, perturbé, contrarié par rapport à lorsque nous l'avons rencontré tout au début. Donc, possiblement suite à notre rencontre dans son bureau à côté du livre.
Tout à fait.
Okay. Je fais part de ces observations discrètement à mes deux compagnons d'enquête.
Ok. Et la soirée se termine de manière... Alors, sauf si vous vouliez faire, parce que je vous ai coupé... non, ils me font mon nom de la tête. C'est toujours pas radiophonique. Mais... la soirée... la journée prend fin, les convives s'éloignent au fur et à mesure et regagnent leur pénate. Vous croisez Monsieur Dufrance au moment où vous parlez, souhaitiez peut-être partir de manière discrète, qui vous dit revenez demain vers 10h.
Très bien.
Très bien.
Je serai là.
À demain, monsieur.
Et vous partez. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose dans la soirée, des recherches, des...
Moi, je relis mon livre sur la mémoire du cuir, parce que je suis sûre qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait nous aiguiller.
Ok.
C'est forcément elle qui a écrit le bouquin qui va donner la solution.
Ouais, c'est celui. Oui, oui. Moi, je suis... En fait, j'ai pas trop de contacts ou d'idées sur l'ésotérisme, donc je m'y connais pas vraiment là-dedans, donc je sais pas quoi faire trop des informations que j'ai à disposition.
J'ai pris leur numéro à tous les deux, et du coup, je revisionne et je réécoute ce que j'ai pu enregistrer, filmer, photographier, histoire de voir si j'ai pas loupé des choses. Je regarde s'il n'y a pas des...
Je me permets, tu comment tu fais? Tu passes des choses sur ton ordinateur, tu standardises depuis ton smartphone, tu imprimes des trucs, j'aurais un peu plus de détails.
Alors, je pense que oui, je dois avoir un système. Je sais pas trop. Je suis pas. Je dois avoir un ordinateur sur lequel je travaille, mais pas forcément. Je le fais sur mon ordinateur.
Ok. Ok. Pas de souci. Vas-y, tu peux continuer.
Donc. Mais je fais pas. Je fais. En fait, j'évite de faire les recherches. Et sur le même truc, genre j'utilise mon smartphone pour écouter et je fais les recherches sur l'ordinateur ou l'inverse, quoi.
Ok.
Je regarde aussi sur les photos s'il n'y a pas des signes. Alors je pense à l'alchimie, aux francs-maçons, les choses comme ça, enfin des symboles qui pourraient... j'ai lu le Da Vinci Code il n'y a pas longtemps. et du coup, je me dis que peut-être que ça serait ce genre de famille. On est en France, il y a une certaine culture là-dessus, donc je me dis, ouais, c'est peut-être ça en fait. On n'a pas compris parce qu'on n'est pas initié, mais et que du coup, il suffirait de trouver un spécialiste du sujet pour nous expliquer. Ça expliquerait pas la mort du fils, mais ça pourrait donner un article intéressant sur la famille, sur ce qu'ils font.
Ok, tu passes plusieurs heures sans vraiment trouver de choses concluantes, mais tu sais que c'est du travail de fond qui nécessiterait quand même plusieurs jours de travail avec des recherches que tu lances. Tu as des moteurs de recherche dans lesquels tu lances des infos et eux ils vont sourcer sur tout un tas de pages, mais c'est pas en tapant franc-maçon truc sur Google que ça va marcher.
Non.
Donc tu sais que c'est vraiment des choses qui vont prendre un peu plus de temps. Et là, tu n'as pas vraiment de résultats sur ce genre de recherche. Tout de suite, en fait.
Donc, si ça donne rien tout de suite, je vais appeler Yuri. Et je vais lui demander...
Allô ?
Allô, Yuri. Excusez-moi de vous déranger. Une idée m'est venue en tête. Monsieur Dufrance, vous connaissez bien la famille.
Je connais surtout Valère. Il se trouve que je connais Monsieur Dufrance comme cela, quoi.
Est-ce qu'il se pourrait que la famille Dufrance soit liée à une loge maçonnique ou une autre organisation du même genre?
Pas à ta connaissance.
Ouais. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et j'ai pas vu de bague particulière autour de ses doigts.
T'es persuadé d'une chose, quand même, c'est que si ça avait été le cas, Valère s'en serait vanté.
Voyez-vous, une chose est sûre, c'est que Valère était un vantard. Il disait tout, et j'aurais su, si lui, il le savait, j'aurais su.
Très bien, merci.
Donc si c'est le cas, c'est vraiment très secret.
Très bien. Mais, enfin, excusez-moi, mais dans ce cas-là, comment expliquez-vous qu'ils connaissent l'existence de ce livre et qu'ils ne s'en soient pas vantés ? De toute évidence, on dirait un livre d'alchimie ou...
Sa chanson était de l'avant-gardise. C'est pour ça qu'il l'a fait.
Ah oui, oui, peut-être.
Et je pense qu'il ne savait pas que ça allait avoir des conséquences jusque-là.
Fort bien. Je vous remercie, Yuri. On se voit demain. Et je lance une recherche. Du coup, je vais lire des trucs sur l'alchimie. Alors, j'essaye d'éviter les trucs...
Le Da Vinci Code, quoi.
Ouais, enfin, surtout, j'essaye de lire des choses liées à France Culture, France Info, plutôt ce genre de sources que...
Des vraies sources, quoi.
Bah, je sais pas si c'est des vraies sources, mais en tout cas, j'ai plus confiance en ça que...
Je crois que Charles Martial a fait un livre dessus.
Oui, par exemple, Charles Martial est l'une des sources que j'évite.
Je ne comprends pas pourquoi.
Alors, est-ce que tu fais quelque chose, du coup, Charles ?
Je vais chercher parmi mes contacts un exorciste.
Ok.
Parce que...
La mémoire du cuir, ouais.
Non, c'est encore autre chose. Je vais chercher parmi mes contacts parce que ben voilà, c'est des choses, vu que moi j'ai travaillé sur ces histoires de communiquer avec les morts au-delà de la vie et tout, et du coup j'ai eu affaire à des exorcismes plusieurs fois, et j'en ai un très bon entourage qui, je lui dis, et je lui parle de ce cas-là, donc cet homme qui a chanté quelque chose dans un langage qu'on ne comprenait pas, avec des symboles sur lui qui pour moi sont clairement démoniaques, et du coup je lui demande son expertise sur le sujet, et je lui demande conseil.
Se transforme en Christine Boutin, là.
Alors, il t'explique qu'en ce moment il est un petit peu pris et qu'il faudrait peut-être prendre rendez-vous dans la semaine pour
mais
pouvoir...
Mais Jean-Eude, c'est quelque chose d'extrêmement important.
C'est Père Jean-Eude.
Mon père.
Je comprends que ce soit important, mais j'ai d'autres choses importantes et je me dois de prioriser les choses.
Très bien. Est-ce que vous auriez quand même un conseil pour ma sécurité, la sécurité des gens avec qui on est, comment se protéger peut-être.
Est-ce que vous avez toujours le petit flacon d'huile sainte que je vous avais offert?
Bien sûr, je le garde précieusement dans ma table de nuit pour être prêt à n'importe quelle occasion.
Une petite croix sur le front et sur le cœur, ça protégera votre âme.
Très bien, je n'y manquerai pas.
Et n'oubliez pas de réciter un Notre Père si jamais il se passe quelque chose. C'est la meilleure incantation que vous puissiez faire.
Je n'en douterai pas. Vous avez lu le livre que je vous ai envoyé sur les énergies cosmiques ? Vous en avez pensé quoi ?
J'ai malheureusement pas eu le temps de le lire.
Très bien, quand vous l'aurez lu, on en reparlera. Merci.
Je l'ai mis sur ma pile à lire, c'est très très prochainement. Hein.
Très bien, je compte sur vous.
Je pense que sur sa pile à lire, il y a tous tes livres à trouver.
Et l'annuaire par-dessus.
Très bien. Voilà,
le lendemain arrive. Sauf si tu voulais rajouter.
Non, mais je vais me coucher satisfaite d'avoir toutes les armes à disposition contre cette menace.
Le lendemain arrive et vous vous pointez au manoir du France. Vous êtes accueilli par un majordome qui est là. C'est très vieille France, hein, mais... Qui vous dit, oui, monsieur Dufrance vous attend dans son bureau.
Merci, Alfred.
Merci.
Je ne m'appelle pas Alfred. Suivez-moi. Donc, vous traversez la...
On fait cette blague tout le temps.
Vous traversez la pièce principale.
Je préfère Nestor.
Vous passez sur la gauche, sur la porte. Vous traversez une salle qui est une salle de billard. Et puis, sur la droite, vous reprenez une porte qui vous mène dans la pièce où vous trouviez.
Yuri, suis-je le seul à trouver que cette maison ressemble à celle du Cluedo ?
Oui. Dans cette pièce-là, qui est plus lumineuse d'un coup, vous tombez face à Monsieur Dufrance, qui est la fesse posée sur son secrétaire avec la main nonchalamment posée sur un livre sur le côté.
Bonjour, je me suis dit France.
Installez-vous, je pense que nous avons à discuter.
Bon. Le livre ressemble à celui qu'on a vu la veille.
Ah, il ne lui ressemble pas, c'est celui-là.
D'accord.
Donc, bonjour Monsieur Dufrance, merci de nous accueillir aujourd'hui.
De rien.
Alors je précise que j'ai toujours mon taser sur moi.
Pas de soucis, si ça dégénère.
Est-ce que si je mets de l'eau bénite sur ton taser, on peut électrocuter un démon? Et un jour peut-être qu'on aura l'occasion
d'essayer. Ça va être très violent,
je pense. C'est pas le bon jeu.
C'est pas une bonne idée.
C'est pas le bon jeu.
Zut alors.
Par contre, tu vas peut-être flinguer son taser.
Ah, zut alors, notre seule arme.
Un flingue, parfait.
Alors, pour ça, c'est normalement, oui. Finissez dans une minute. Hein.
Très bien.
Asseyez-vous. Je pense que j'ai besoin d'explications. Vous pouviez me dire ce que vous faisiez dans mon bureau hier?
Nous cherchions des explications, des raisons de la mort de votre fils.
Et vous cherchez souvent des explications chez les gens sans leur en parler d'abord?
Nous avons été entraînés ici par Juliette, votre fille. Et la curiosité nous a poussés à chercher des choses. Nous avons vu des lueurs, des lumières, nous avons senti des choses et nous ne pouvions pas. Aucun de nous restait là, les bras croisés, alors que votre fils était mort injustement.
Monsieur Dufrance, nous ne pouvions pas vous voir hier. Vous étiez pris dans votre deuil et auprès de votre femme. Nous aurions eu peur de déranger à ce moment. Nous serions venus vous parler de toute façon, vous le savez.
Je le sais, mais vous n'avez pas eu peur de vous faire découvrir et d'éventuellement perturber ce moment familial.
Découvrir par qui et perturber quoi? Nous n'avons rien perturbé. Nous avons été discrets.
Retrouvons un peu de contexte. Il se trouve que Yuri est un proche de votre famille, que lors de la réception, Juliette s'est retrouvée à être à côté de nous, dans cette pièce. Yuri a senti qu'elle était en détresse. Il est entré pour la rassurer. Le docteur Martial l'a aidé en tant que psychologue. Et
vous voilà. Avez choisi de consoler les livres qui étaient dans ma bibliothèque par la même occasion?
Absolument pas. Il se trouve qu'au départ, notre intention était de parler, de rassurer votre fille. Enfin, de mes deux compagnons, personnellement, j'avoue m'être contenté d'être présent. Je n'ai pas parlé à votre fille, j'ai trouvé que les autres le faisaient bien mieux que moi, et voilà. Vous pourrez demander à Juliette, d'ailleurs, de vous confirmer ce fait.
J'ai eu sa version des faits.
Il se trouve que votre bibliothèque est magnifique, et que j'ai pris, avec l'accord de Yuri, une photo. Et qu'une chose étrange, une lueur verte, s'est dégagée d'un livre en particulier. Par sécurité, nous avons préféré demander à votre fille de s'éloigner. Je vous explique pourquoi cette lueur verte nous a intrigués et pourquoi nous y avons vu un danger. C'est que une telle lueur a émané de votre fils peu de temps avant son décès.
D'accord. C'est ça qui s'échappait de lui.
Monsieur Dufrance, il se passe des choses étranges autour de la mort de votre fils et dans votre maison. Je ne pense pas que vous vouliez laisser les choses en suspens comme ça. Il faut trouver la raison pour ne pas que ça arrive à quelqu'un d'autre dans votre famille. Ou même ailleurs, que d'autres innocents soient tués par ce mal qui a tué votre fils. Et je suis persuadée que vous aussi, vous avez envie de savoir vraiment ce qui s'est passé. Vous savez que votre fils n'est pas mort naturellement. Vous le savez. Vous êtes un homme intelligent, je le vois, et vous aimez profondément votre fils. Nous pouvons vous aider. Je suis sûre qu'ensemble, nous pouvons vous aider à faire la lumière sur cette affaire. Si
Charles,
vous laissez faire.
Je pense au contraire que M. Dufrance est au courant de l'existence de ce livre. Il le connaît très bien. Visiblement, il sait comment son fils est mort. Mais c'est à lui de s'expliquer de ça. Il est important de connaître la vérité.
Il se lève. Il va vérifier que les portes sont fermées. Il fait effectivement, je pense que j'ai des choses à vous dire. Mais êtes-vous digne de confiance ? Voilà, nous allons laisser les voix dans cette situation un petit peu délicate et tendu. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller télécharger ou écouter le podcast directement sur le www.radio-g.fr. Il devrait être disponible dans quelques instants. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour arpenter et entendre à nouveau les voix du scénario.
www.radio-g.fr